liberté de parole. Les jeunes de l'UAJ au micro. Sur Studio Zef.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission réalisée en partenariat avec l'UEAJ, Centre Val-de-Loire. Et donc, pour cette nouvelle émission, j'accueille un nouveau groupe en plateau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, on va faire un petit tour de table de présentation. On va commencer par toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Moussa, je viens de la Guinée. J'ai 16 ans.
D'accord. À côté de toi?
Je m'appelle Sahela, j'ai 18 ans.
Ok. Ensuite?
Je m'appelle Archdeep, j'ai 17 ans, je suis indien.
D'accord. Et on finit par?
Je m'appelle Adnaïk, j'ai 16 ans et je suis réunionnais.
Ok, super. Et donc du coup, le sujet de cette émission, ça va être? De quoi on va parler dans cette émission?
On va parler sur la liberté d'expression.
D'accord. Et bien du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier sujet. Donc on a préparé une petite discussion pour essayer de comprendre... Qu'est-ce que la liberté d'expression? Alors, qui est-ce qui commence?
C'est moi.
C'est toi, Arjdeep. Alors, pour toi, c'est quoi la liberté d'expression?
La liberté d'expression, c'est qu'on peut dire ce qu'on pense.
D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a ajouté quelque chose à ajouter à ça derrière?
Moi, ouais. La liberté d'expression. L'homme est libre de penser, de parler, de faire ce qu'il veut, mais il y a des limites. Il ne faut pas manquer de respect aux personnes.
D'accord. Est-ce autre chose à ajouter?
Le problème aussi, c'est que certaines racontent des bêtises.
D'accord. Donc, si je résume rapidement ce que vous venez de dire, c'est que la liberté d'expression... C'est qu'on peut dire ce qu'on pense, mais il y a quand même des limites pour ne pas blesser. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur le sujet?
Il faut réfléchir, est-ce que l'on dit aux personnes pour ne pas raconter n'importe quoi? S'il n'y a pas un pays délimité, les personnes font n'importe quoi, n'importe quand.
Et donc du coup, pour finir, Adnaïk, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur la liberté d'expression?
Quand tu es libre, tu peux apprendre à réfléchir à tes propos. C'est important d'être libre et de s'exprimer car on peut échanger avec les personnes même quand on a des avis différents.
D'accord. Eh bien, je vous remercie pour ce premier échange sur la définition de la liberté d'expression. Et juste après le jingle, je vous propose qu'on écoute l'interview qu'on a réalisée d'un artiste. Et pour ça, on revient juste après.
Liberté des paroles sur Studio Zef.
Alors bonjour, on continue notre émission en compagnie d'un artiste qui va nous parler un petit peu de son rapport avec la liberté d'expression. Et pour poser les questions, en plateau avec moi, j'ai Sohaila et Moussa. Alors déjà, Sohaila, je crois que tu avais la première question. Non, c'est toi, Moussa?
Non, c'est moi.
C'est toi, Sohaila. Eh bien, vas-y. Alors du coup, notre invité t'attend.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez présenter-vous, s'il vous plaît?
Alors, on m'appelle Joe, ou alors l'écrivain de Joe, ça dépend. J'ai 30 ans et je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'écris des textes depuis tout petit et... Mais j'ai toujours aimé ça et j'ai jamais arrêté. Voilà, c'est un peu moi.
D'accord.
après, je peux dire des trucs en plus. Hein. Je peux dire que je fais de la musique et tout ça. Mais...
Non, mais après c'est ta réponse, Joe. Il n'y a pas de problème. Il y a une deuxième question de la part de Sohaila.
Oui. Quand et comment avez-vous commencé les rap?
Alors, j'ai commencé ça sur l'âge de mes 15 ans. C'était avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Tam. Et c'est avec lui que j'ai commencé officiellement à rapper vraiment, 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 vraiment. Et j'ai jamais arrêté, en fait. On était un petit collectif et après, Et après, j'ai rencontré énormément de gens. Alors, j'ai commencé à Strasbourg. Et à Strasbourg, j'ai rencontré des tas de personnes. Il y avait Samir, il y avait Alexis, il y avait Lucas. Enfin, des tas de personnes avec qui j'ai bossé. On n'a jamais lâché l'affaire. Et après, j'ai débarqué en région centre. Et en région centre, j'ai fait énormément de musique aussi, où j'ai rencontré énormément d'artistes. Qu'on parle de Sadou, qu'on parle d'Ange, qu'on parle de Loud, qu'on parle de 2x7, on peut parler du collectif Slamdi. Voilà, il y a aussi Zurg et Yopo qui m'ont permis aussi de bien continuer dans la musique. Donc voilà, j'oublie personne. Alors j'ai pas cité tout le monde parce qu'il y en a vraiment énormément. Voilà, je pense fort à tout le monde.
D'accord. La prochaine question vient de Moussa.
Oui.
Vas-y.
Bonjour.
Salut Moussa, ça va ?
Oui, ça va. Je voulais te poser quelques questions.
Oui, ben, je t'en prie, vas-y.
Comment écrivez-vous vos textes ? De quoi parle-t-il ?
Alors, comment j'écris mes textes ? Je les écris souvent sur un coup de tête. Je sais pas, par exemple, Moussa, tu vas me raconter une histoire ou tu vas me raconter ton histoire. Ton histoire va me toucher beaucoup. Et ben, moi, je vais rentrer chez moi et je vais me dire, oh là 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 là, faut que je parle de Moussa. Alors, je vais pas forcément citer ton prénom dedans, mais quand tu vas écouter la chanson, tu vas te sentir concerné parce que tu sauras que ça parle de toi. Et à travers ce message, il y a plein de personnes qui peuvent se sentir concernées. Donc moi c'est un peu comme ça que j'écris mes textes. Après j'écris aussi, je fais des petits défis où les personnes me donnent des mots et moi j'écris des chansons à travers les mots qu'ils m'ont donnés. C'est possible aussi. Ça répond à ta question, Moussa ?
Ok, merci. Est-ce que vous êtes libre de tout dire ?
Je suis libre de tout dire. Maintenant, est-ce que j'ai envie de tout dire ? Il y a des choses qui sont assez compliquées en fait. Quand t'écris un texte, je peux insulter tout le monde, mais je sais pas si ça rapporte énormément de profondeur au message. Je peux insulter vraiment tout le monde, mais je suis pas certain que c'est ça qui marche. Quand t'écoutes, après chacun a sa vision des choses, mais je pense qu'il y a des insultes qui sont faites pour être placées des fois dans les textes. Et dans certains textes, et après il y en a d'autres, je pense pas que c'est nécessaire. Je pense pas que c'est nécessaire, et surtout que la langue française, elle est déjà tellement riche que tu peux écrire des tas de textes sans forcément mettre une insulte dedans. Parce que t'as des tas de trucs que tu peux dire, voilà. Et moi, quand j'écris un texte, souvent, je me dis, je vais pas être mondialement connu, c'est sûr. Mais pour ceux qui m'écoutent, il peut y avoir aussi des petits qui m'écoutent, des petits, des petites. Moi, j'ai pas envie qu'elles se disent « Ah ouais, t'as vu Joe et tout, il les insulte tous, c'est cool. » Non, j'ai envie qu'ils se disent « Ah, il y a quelque chose d'autre là. Et il y a quelque chose que peut-être on n'en parle pas souvent, mais lui, il en parle. Donc ça, c'est cool. » Tu vois, je pense pas qu'on est obligé d'insulter dans un texte.
Okay. Est-ce que vous pouvez avoir des problèmes si vous dites certaines choses ?
Dans le contexte actuel, tu peux avoir des problèmes en fonction de ce que tu dis, suivant les sujets que tu abordes. Mais tu auras des problèmes, pas forcément avec les personnes, mais avec... Je sais pas comment expliquer, mais tu auras des problèmes plus avec... Regarde, admettons, je te donne un exemple. J'écris un texte contre les femmes. Ça concerne pas toutes les femmes de la Terre. Mais peut-être que j'ai envie d'écrire un texte contre les femmes. Eh ben, il peut y avoir des collectifs ou des mouvements féminins qui vont porter plainte contre moi parce que j'ai écrit un texte contre les femmes. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Et là, à ce moment-là, moi, ça peut me poser des problèmes. Mais en temps normal, ton texte, il pose pas de problème du moment que c'est bien fait. Du moment que c'est bien fait. Tu peux dénoncer des tas de choses sans forcément passer par là.
Ok. Quel message voulez-vous faire passer?
J'ai envie de te dire, Moussa, ça dépend vraiment des jours. Ça dépend vraiment des jours, ça va dépendre de mon humeur, mais j'essaye. En tout cas, ça a toujours été ma ligne de conduite, d'avoir un message qui soit fédérateur, quelque chose qui rassemble ou quelque chose qui fait prendre conscience. Par exemple, dans mes chansons, je parle souvent de famille, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une famille, mais qui s'en rendent pas compte. Ils ont une famille, ils ont vraiment beaucoup de chance, mais ils s'en rendent pas compte. Tu vois, ils vont pas être contents parce que maman, elle a pas acheté le bon téléphone. Mais déjà, maman, elle t'a acheté un téléphone, donc déjà, c'est beaucoup, sois content. Et ben, de nos jours, moi, je trouve que les jeunes, ils se rendent plus assez compte de la valeur de leurs parents. Ils pensent que les parents, c'est juste un portefeuille et ça s'arrête là. Alors que... normalement, ça devrait aller beaucoup plus loin.
Ok, merci.
Il n'y a pas de quoi.
Il y a une dernière question de Soïla sur... on t'écoute, du coup.
Avez-vous des projets à venir?
J'aimerais bien cette année. Et si possible, alors ça va dépendre vraiment. C'est une question de temps. J'aimerais bien faire un CD. Alors pas un CD qui va être vendu, mais un CD gratuit avec tous mes meilleurs duos, avec tous mes potes avec qui j'ai fait des musiques, mais ceux avec qui vraiment j'ai fait des bons trucs, parce que j'ai fait plein de musique en duo, mais tout n'est pas toujours très bon. Il y a des fois c'est vite fait. Alors qu'il y en a, elles sont vraiment, vraiment terribles, et j'aimerais bien faire un CD où justement je rassemble tout ça. Je puisse emmener mes amis en studio et qu'on s'enregistre tout ça.
Voilà.
Et j'aimerais faire aussi une petite dédicace, parce que j'ai cité beaucoup de potes, mais il y en a deux que j'ai pas cité parce que je voulais les citer vers la fin, parce que pour moi c'est les meilleurs actuellement. J'ai mon pote Martin avec qui maintenant je fais de la musique aussi depuis des années, et lui c'est carrément sûr, j'ai envie qu'il soit carrément sur CD. Et j'ai ma poteau aussi Eugénie, que j'oublie pas, et aussi Aurélien. Alors Aurélien qui m'aura beaucoup aidé sur tout ce qui va être mixage et tout ça. Donc si je fais un CD, j'aimerais bien que ce soit lui qui le mixe, parce que pour moi, il est vraiment très très bon. Voilà. Et Eugénie, elle a une plume comme personne, donc ça c'est une fille. Si un jour vous l'écoutez, vous n'allez pas être déçus.
Très bien. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré.
C'est normal.
Et je voulais te poser une dernière question. Est-ce que tu nous autorises à ce qu'on diffuse dans l'émission le morceau « Laissez-moi faire » que tu as mis en ligne récemment ?
Bien sûr. Avec plaisir. Et si jamais, je dis bien, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, quelque chose en quoi je peux vous aider, même si je suis à distance, je le ferai volontiers. Ça me fait plaisir.
On te remercie.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Ok, merci.
Bonne journée à vous.
Merci. Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
J'adorais dyslexique si les douleurs de famille se transforment en cœur de couleur, en sourire de ma fille. Les rêves trop utopiques peuvent te planter. Les gens de nos jours ne sont plus entiers, ça donne pas envie de rentrer.
Ma vie est une bagarre, mais dis-moi qui n'a pas de combat. Y'en a pour qui c'est facile, à la fin du mois ne compte pas. Je vais pas te parler de mes nuits, la plupart sont devenues blanches. Et franchement, sans boule au ventre, je me sens étrange. J'aimerais pouvoir reprendre mes droits, être juste moi. Les gens te jugent et tu as tout, ils comprennent pas que ça vient juste de moi. Tout ce que j'ai, je le dois à moi-même. Oui, j'en suis fier, oui, c'est pour ça que je la ramène. Je réclame qu'on me reprenne un peu de poids, qu'on me rende à bout de moi, qu'on me laisse faire entendre ma voix. Je réclame qu'on me redonne l'envie d'aimer, qu'on me rende l'envie d'être, qu'on me laisse faire sans jamais être freiné. Laissez-moi faire. Je sais très bien ce que je fais. J'ai toujours été seul. Pourquoi ça changerait? Quelle injustice! Si le clown donne le sourire, mais que lui est mort, que son bonheur ne peut se nourrir, il est trop mal, mais vraiment mal. Dans ses souliers, encore plus mal, depuis que chacun de vous, vous le souliez. Il n'a plus de flamme, pourtant c'est lui le cracheur, le public l'acclame. Lui ne pensera plus qu'à sa sœur, petit biscuit, trempé dans un bol de lait Macron, élu président en compagnie de ses porcelets. Je suis dans tous mes états, chez moi tout est éteint. La fierté de végétal, le cœur brisé par des putains. Julien, c'est mon ami, amateur, mon ami râleur. Je vais pas faire des seins, c'est mon meilleur animateur. Parler de cette femme, ça donnerait trop envie de sarcasme. Trop envie de purer, trop envie de dire que c'est une sale tasse. Être meilleur, c'est pas pour écraser les rivalités, mais rattraper mes erreurs, être un homme bien en finalité. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je sais très bien ce que je fais. J'ai toujours été seul. Quoi ça changerait.
Liberté des paroles. Sir Studio Zef.
Et maintenant, on va vous faire écouter une interview d'un journaliste.
Il va se présenter et on va lui poser des questions sur son métier.
Ah, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
Oui, bonjour, je m'appelle Antoine Krempf. Alors je suis journaliste dans une radio qui s'appelle France Info, qui est une radio du service public qui s'appelle Radio France. France Info, c'est une radio qu'on appelle d'information en continu, c'est-à-dire que on parle d'informations 24 heures sur 24, il n'y a pas de musique, il n'y a que des informations sur notre radio. Et puis moi, personnellement, je m'occupe d'une chronique, d'un rendez-vous sur cette radio, qui est le matin à 8h23-24, qui s'appelle « Le vrai du faux ». Et c'est une chronique qui cherche à vérifier ce qu'on nous raconte. Alors ça peut être des déclarations de personnalités politiques, mais aussi ça peut être ce qu'on nous raconte, vous savez, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, comme on dit. Voilà, les rumeurs qui peuvent traîner sur ces supports-là. Et tous les matins, donc pendant 2 minutes 30, je cherche à démonter, à vérifier les informations.
D'accord. Alors, la question suivante.
Comment devient-on journaliste?
Alors, il y a plein de moyens de devenir journaliste. En France, alors je vais vous parler peut-être de mon cas personnel. Moi, j'ai fait des études de lettres et de histoire, et après, je suis rentré dans ce qu'on appelle une école de journalisme. C'est une école qui permet de préparer au métier de journaliste. Celle que j'ai fait se trouve à Strasbourg, et c'est pendant 2 ans, on m'a appris à devenir journaliste, c'est-à-dire à respecter un certain nombre de codes, un certain nombre de règles, à savoir comment on écrit pour la radio, comment on parle devant la télé, etc. etc. Mais il y a d'autres moyens de rentrer. On n'est pas obligé d'avoir une école de journalisme derrière soi pour devenir journaliste. Aujourd'hui, on peut être journaliste assez rapidement, à partir du moment où on raconte ce qui se passe, on raconte la réalité et on va chercher les faits. Voilà.
D'accord. Alors, Anaïk a la question suivante.
Est-ce que vous nous dire tout ce que vous voulez?
Alors, est-ce que je peux vous dire ou dire à l'antenne tout ce que je veux?
Dire à l'antenne tout ce que vous voulez.
À la radio, est-ce que je peux dire tout ce que je veux? Je vais peut-être répondre deux choses. D'abord, je suis libre de dire ce que je veux. C'est dans le sens où la direction de France Info ou de Radio France ou même du gouvernement ne m'a jamais dit c'est mieux de ne pas parler de ce sujet-là ou c'est mieux de ne pas dire à telle personnalité qu'elle dit faux, etc. Si vous voulez, j'ai jamais eu de ce qu'on appelle la censure dans ce que j'ai toujours voulu faire. Après, dire ce que je veux, ça veut dire aussi respecter un certain nombre de règles, c'est-à-dire des règles de droit, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire ce qu'on appelle de la diffamation ou de l'injure. Ça, c'est des notions de droit, en fait, qui veulent dire que bah, je n'ai pas le droit d'insulter une personnalité politique dont je parle. Je n'ai pas le droit de dire je sais pas moi, cette personne-là est complètement débile, ou ça c'est encore pas trop une insulte grave, mais quand même. Et faire de la diffamation, c'est cette personne-là, je sais pas moi, je l'ai vu vendre de la drogue dans la rue, alors que je n'ai aucune preuve pour le dire. Ça s'appelle de la diffamation, et ça aussi c'est interdit par la justice, par le droit. Voilà, après c'est le premier cadre. Après le deuxième cadre, c'est peut-être déontologique, ce qu'on appelle déontologique, c'est-à-dire c'est des règles internes que nous, journalistes, on s'impose. Et pour faire très très simple, ça veut dire qu'on s'impose de jamais parler d'informations, de choses qu'on n'a pas vérifiées, dont on n'a pas eu des sources sûres qui nous ont dit bah, ça s'est vraiment passé comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est-à-dire on ne parle pas de choses qui ont été inventées.
Antoine, est-ce que du coup je peux te relancer et éventuellement compléter? Est-ce que tu aurais le droit de donner ton opinion sur un sujet?
Non, voilà, ça fait partie aussi des règles internes qu'on s'impose. Alors moi je suis journaliste, c'est-à-dire je ne suis pas éditorialiste. Il y a beaucoup de sortes de façons de pratiquer le journalisme en France. Un éditorialiste, c'est quelqu'un justement qui va donner son opinion, qui va faire une tribune, etc. Moi, je me considère journaliste pur et dur, c'est-à-dire que je vais toujours chercher les faits et pas mes croyances. C'est-à-dire que je ne vais pas relayer mes croyances, mais uniquement me baser sur les faits, sur ce qui s'est vraiment passé ou sur les chiffres, une réalité.
D'accord. La question suivante.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire?
Bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, la diffamation et l'injure, sur le droit et les règles internes. Comment dire, je n'ai pas le droit d'inventer des choses et je n'ai pas le droit d'attaquer quelqu'un gratuitement, sans fondement. Voilà un peu les règles, ce que je n'ai pas le droit de dire à l'antenne, c'est ça.
D'accord. Une autre question peut-être?
Oui, oui. Comment trouver les sujets à aborder?
Alors pour ma chronique, j'écoute tous les matins les invités qui sont politiques ou syndicaux, etc., qui passent dans les médias, à la télévision ou à la radio. Et dès qu'il y a une phrase qui m'interpelle parce que je la trouve bizarre, eh bien, je vais aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Par ailleurs, je regarde beaucoup aussi les réseaux sociaux comme Facebook ou comme Twitter. Et dès que je vois, par exemple, une image ou dès que je vois un article ou un message que je trouve bizarre parce que ce n'est pas vérifié, parce que visiblement, ces messages-là ou ces photos cherchent à manipuler les gens, eh bien, je vais aller chercher à savoir d'où viennent les informations, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux.
D'accord. Alors, du coup, la suite à la question pour toi, Anaïk.
Comment cherchez-vous et trouvez-vous les informations que vous écrivez dans votre chronique?
Alors, comment je vérifie peut-être ce que j'ai trouvé? Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, vous, si vous êtes sur Facebook, mais il y a quelques jours, il y avait des photos de pyramides sous la neige en Égypte qui étaient beaucoup partagées sur Facebook. Et voilà, donc j'ai trouvé ça très bizarre. Et donc la question, c'est comment on vérifie si les pyramides en Égypte étaient sous la neige? C'est un exemple, hein. Eh bien, c'était pas si compliqué que ça, finalement, parce que il suffit, par exemple, de regarder la météo qu'il fait en ce moment en Égypte j'ai vu qu'il faisait 27 degrés à Gizeh, là où on trouvait les pyramides. Donc c'était pas compliqué de trouver qu'il n'a pas neigé en Égypte, parce que la neige à 27 degrés, bah, c'est compliqué. Et puis par ailleurs, en recherchant l'origine des photos, parce qu'il y a des outils qui existent pour ça, notamment Google Images, eh bien j'ai réussi à trouver que le sphinx qu'on voyait qui était sous la neige, ça venait du Japon, dans un parc d'attractions spécialisé dans les monuments miniatures. Une photo qui avait été prise il y a 5 ans. Donc vous voyez, je cherche toujours à savoir dans quel contexte a été pris cette photo, ou quel contexte a été prononcée cette déclaration, et aller chercher derrière les chiffres ou l'origine, répondre aux questions qu'on se pose, nous tous, journalistes, quand on cherche à vérifier une information. C'est qui dit cette information, qu'est-ce qu'elle raconte, est-ce que c'est vérifiable, pourquoi elle dit ça, à savoir est-ce qu'elle a une volonté de manipuler, par exemple, et et pourquoi, donc, et dans quel contexte global, voilà.
D'accord, et je crois qu'il y a encore une dernière question.
Quel problème rencontrez-vous dans votre travail?
Alors, les deux principaux problèmes, je dirais, c'est qu'on peut pas toujours tout vérifier, malheureusement, les informations qui nous arrivent. Pour prendre un exemple récent, vous savez qu'il y a peut-être des combats très intenses en ce moment dans une région syrienne qui s'appelle la Ghouta, qui est à l'est de la capitale Damas. Et c'est une région qui est très très compliquée pour nous, journalistes, à couvrir, parce que c'est très difficile d'accès, donc on ne peut pas aller ou très difficilement sur le terrain pour voir ce qui s'y passe. Et donc on peut difficilement vérifier les informations qu'on nous raconte. Et c'est d'autant plus un problème que chaque camp impliqué, entre guillemets, dans cette bataille dans la Ghouta, cherche à manipuler l'opinion publique en diffusant des photos d'exactions, de tortures, soit commis par ce qu'on nous présente comme des terroristes qui seraient dans la Ghouta, soit par le régime de Damas. Donc il y a une vraie bataille de communication, de propagande sur ce sujet-là, et nous, journalistes, on est limités parce qu'on a du mal à accéder concrètement sur le terrain pour témoigner, pour observer de ce qui s'y passe vraiment. Voilà. Par ailleurs, moi, personnellement, le deuxième problème que j'ai avec mes chroniques de démontage, si vous voulez, de rumeurs, c'est que en général, elles sont moins diffusées, elles sont moins lues que les rumeurs elles-mêmes. Donc, des fois c'est un petit peu difficile parce que les démentis sont moins populaires que les rumeurs. Donc voilà, on se dit que parfois ça sert pas à grand chose, mais si en fait on s'y accroche, parce que si on arrive à convaincre au moins une ou deux personnes que ce qu'elle a vu comme rumeur c'était faux, bah c'est un combat qui est gagné pour moi.
Très bien, ben merci.
Ben de rien, merci à vous.
Bah merci monsieur.
Ah, merci.
Liberté de parole sur Studio Zef.
Et on continue notre découverte de la liberté d'expression avec Soaïla. Alors, de quoi tu avais envie de nous parler, toi, Soaïla?
Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube dans les différents pays du monde.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça?
En faisant des recherches, j'ai découvert que dans certains pays, Facebook, YouTube, Twitter n'existaient pas car deux gouvernements ont interdit que les jeunes l'utilisent. Ils ont peur que les peuples du mal de leur politique.
D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple à me dire, ou un ou plusieurs exemples?
Par exemple, en Turquie, en 2014, le gouvernement a interdit les cancellations des réseaux sociaux pendant
pendant les élections, peut-être?
Oui, pendant les élections, pour éviter que les gens s'opposent aux idées du régime.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a que en Turquie que ça se passe comme ça, ou il y a aussi dans d'autres pays?
J'ai également découvert qu'en Corée du Nord, c'est la scène à Internet et de son ensemble qui est très limité. Les gens ne pouvaient pas discuter entre eux, ne pouvaient pas vivre comme ils vont. Et ils ne sont donc pas libres. Et du coup, ils ne connaissent rien du monde.
Est-ce que c'est tout?
Non, et il y a encore d'autres pays qui contrôlent ces sites. Iran, Pakistan, Chine.
D'accord, et alors en France, nous, comment ça se passe?
Nous, en France, on a plus de liberté. On peut communiquer partout avec Facebook, YouTube, Snapchat ou Instagram. On peut aussi discuter avec des personnes qui sont loin de nous. On peut également apprendre des choses et avoir des informations sur le monde, mais il faut faire attention à tout ce qui s'est dit et toujours vérifier les informations.
D'accord. Merci beaucoup, Soëlla. C'était très intéressant. J'ai appris des choses. Je vous propose qu'on continue avec la chronique suivante.
Nous allons vous présenter un micro-trottoir sur la liberté d'expression. Nous avons interrogé quelques personnes dans la rue à Blois. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bon, je voulais vous poser quelques questions sur la liberté d'expression. En France, qui protège la liberté d'expression?
Ça doit être la Constitution. Qui fixe effectivement le principe d'une liberté d'expression pour tous les citoyens.
Je dirais qu'on la protège tous un petit peu, chacun d'entre nous. C'est à nous de faire en sorte de protéger cette liberté d'expression-là. Voilà.
Qui protège la liberté d'expression en France?
Moi, je dirais la justice. Parce que c'est ce qui impose cette liberté, donc la justice.
Qui c'est qui protège la liberté d'expression en France? Ah, ça c'est une très bonne question. Après, on a tous en nous le besoin et de s'exprimer librement et de prouver nos convictions. Après, c'est dans la limite du raisonnable et que ça n'atteigne pas d'autres personnes et que ça fasse surtout mal à d'autres personnes, je pense.
Eh bien, écoutez, je pense qu'en France, les premiers à protéger la liberté d'expression, c'est l'État, parce qu'on est dans un pays de liberté. Voilà, et puis ensuite, probablement les associations certaines associations qui font la promotion de la liberté d'expression. C'est le droit français en général. Voilà.
Qui protège la liberté d'expression? Je dirais les journalistes.
En personne, je sais pas trop. Enfin, je sais que la liberté d'expression est défendue par la Constitution et par la loi. Après, je sais pas s'il y a un fonctionnaire ou un organisme qui le fait, mais c'est défendu dans les textes en tout cas.
Alors, qui protège la liberté d'expression? Normalement, officiellement, c'est l'État, mais il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Je sais pas trop. Les gens, peut-être aussi. Les gens, la société.
Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je sais pas.
Alors là, c'est une bonne question. J'ai pas droit à joker. Bon, c'est chaque personne a l'expression qu'il veut, hein, de toute façon. Tout le monde s'exprime comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, ce serait bien. Ce serait super, ça.
Je ne contenais rien à ça. Non, je réponds pas.
Mais qu'est-ce qui protège ta liberté d'expression?
Les lois, car tout le monde peut s'exprimer.
Et donc du coup, à l'instant, on vient d'entendre le micro-trottoir sur la liberté d'expression, préparé par Moussa, et on a oublié de dire c'était Soëlla qui a fait la technique. Et ça, c'est important quand même, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, on arrive à la fin de l'émission, là. Avant de se quitter, une dernière petite question que je vous pose à tous. Comment ça s'est passé cette émission? Qu'est-ce que vous en retirez, vous? Moussa, qu'est-ce que toi tu as pensé de ce travail, de cette émission?
Ça a été bien passé.
D'accord. Ça t'a plu?
Ouais.
D'accord. Et les autres autour de la table, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Bah, on apprend beaucoup d'informations.
D'accord. Ça vous a plu de faire les interviews?
Oui. Pourquoi pas?
Ouais. Arjdeep?
Ouais, c'est bon, ouais, j'ai appris beaucoup de trucs, voilà. C'est bon, ça a été impeccable, ouais.
Ok. Et Anaïk? T'as pas été là tout le temps, mais du coup, t'es quand même sur la fin, là, on t'entend dans l'émission.
J'étais là tout le temps, mais ça va, c'est bien.
Très bien. Bon, eh ben, moi en tout cas, je voulais vous remercier pour ce moment qu'on a passé ensemble, c'était très intéressant.
Je t'en prie, monsieur.
Voilà. Et avant de se quitter, je voulais juste dire aux gens qui écoutent l'émission qui peuvent retrouver cette émission en podcast sur le site de la radio studiosf.fr. Et puis je vous dis au revoir et à bientôt.
Merci. Au revoir, merci.
Au revoir, merci, au revoir.
Liberté de parole. Les jeunes de l'UAJ au micro. Studio ZEF